pour l'essentiel, puisqu'il a manqué, semble-t-il, une soixantaine de députés au moment du vote, LR, le parti des Républicains d'Éric Ciotti, et le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Devenant cette loi est donc devenue ainsi la loi Darmanin-Ciotti-Le Pen-Macron. Cette loi qui, dans le détail, aggrave la situation des travailleurs migrants et de leurs familles. Macron l'a fait passer devant, maintenant après le vote, devant le Conseil constitutionnel, dont on sait d'avance qu'il pinaillera sur des points de détail pour valider l'ensemble de la loi, l'édifice profondément réactionnaire qu'ils ont concocté. Au-delà du caractère grotesque et de la pantalonnade qui s'est jouée au Sénat, à l'Assemblée et à l'Élysée, cette loi immigration fait évidemment penser à un sketch, alors que les plus anciens connaissent, et évidemment les moins de 40 ans, peut-être même de 50 ans, ne peuvent pas connaître. C'est un sketch d'un ancien comique qui a eu son heure de gloire en France, qui s'appelait Fernand Reynaud. Et le sketch se résume ainsi. Une campagne est menée dans un village contre l'étranger du village qui vient manger le pain des Français. Et ce qui vient manger, l'étranger qui vient manger le pain des Français, est répété plusieurs fois dans le sketch, tant et si bien qu'à la fin, l'étranger s'en va. Et à partir de ce départ, les gens du village ne peuvent plus manger de pain. L'étranger qu'on a fait partir était le seul boulanger du village. À ce point-là, il est nécessaire de revenir beaucoup plus sérieusement sur le fond de l'affaire. Et je voudrais rappeler quelle est la position de la libre-pensée sur cette question de l'immigration, la place des étrangers dans le pays et tout. Et la libre-pensée a une position qui est de proposer à tous ceux qui veulent bien réfléchir, réfléchir avec sincérité et humanisme, réfléchir par eux-mêmes. Nous voulons vous faire connaître, pour ceux qui l'ignoreraient, la constitution révolutionnaire de la France républicaine de 1793, au moment de la Grande Révolution française. Et donc il y a un chapitre qui s'appelle « De l'État des citoyens ». Dans la Constitution, et à l'article 4 de cet État des citoyens, on peut lire ceci. « Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, tout étranger âgé de 21 ans accompli, puisqu'à l'époque, la majorité n'était pas à 18 ans, elle était à 21 ans, qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard. Tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, tout étranger, donc, est admis à l'exercice des droits de citoyen français. » Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui mener le combat pour renouer avec cette vieille exigence républicaine? Et ça passe évidemment par un combat féroce, je dirais, intransigeant en tout cas, contre cette loi Macron, Darmanin, Le Pen, Ciotti. Et donc ce que nous proposons, c'est de participer massivement à la manifestation qui va être organisée le 14 janvier de cette année, évidemment. Une réunion s'est tenue à Paris, ou se tient à Paris aujourd'hui plus exactement, sans doute une aussi à Marseille, d'après les informations qu'on a. Et elle mettra en place les modalités de l'organisation de cette manifestation le 14 janvier. Très probablement, on nous annonce aussi qu'il y aura une manifestation pour le cessez-le-feu en Palestine, pour l'arrêt du massacre, le 13. Alors évidemment, ça fait deux journées à manifester, mais nous pensons que ces deux causes-là valent l'effort, valent le sursaut de tous les républicains, des pacifistes, de tous ceux qui pensent que l'humanité doit gagner le droit de vivre en paix contre ceux qui ont intérêt, qui tirent profit de toutes les guerres. Et rappelons la phrase célèbre, on croit mourir pour la patrie, Et en fait, on meurt pour les marchands de canons, pour les industriels de l'armement. Pour conclure un peu ce propos, un peu comme un éditorial que nous proposons aujourd'hui, nous proposons d'écouter la chanson qui s'appelle « L'affiche rouge ». Alors c'est une chanson qui rend hommage, qui fait honneur aux résistants de la main-d'œuvre immigrée, la MOI, FTP, MOI, francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée, groupés autour de Manouchian, ce qu'on a appelé le groupe Manouchian, en l'occurrence, qui ont été arrêtés par la police française et livrés au peloton d'exécution des Allemands, des nazis qui occupaient la France à l'époque. Et c'était une affiche rouge qui disait « La libération par le crime ». C'était titré comme ça, « La libération par le crime ». Le fait que les gens étaient, évidemment, après quelques jours de prison et de torture, avaient des têtes patibulaires sur les affiches, qu'ils avaient des noms à forte consonance étrangère, ça les désignait tout à fait pour être des terroristes. Mais nous, évidemment, à la suite de nos anciens et sans doute de beaucoup de générations futures, nous disons les résistants des francs-tireurs et partisans et de la main-d'œuvre immigrée. Voilà, si on peut maintenant écouter cette chanson qui s'appelle « L'affiche rouge ».
Voilà, pour apporter un peu plus, l'affiche rouge, telle que vous allez l'entendre, c'est celle qui est chantée par Léo Ferré. Elle avait d'abord été chantée par Monique Morelli en 1961.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour. Mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23, quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Merci pour ce moment d'émotion. Claudette, c'est le moment de revenir sur l'année qui vient de s'écouler.
Oui, alors, l'année qui vient de s'écouler du point de vue de la laïcité. Je devrais dire plutôt du point de vue des coups de boutoir qui ont été portés à la laïcité en cette année 2023. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive de tous ces coups qui ont été portés. La liste serait évidemment trop longue. J'ai donc dû trier. Et pour autant, il s'agissait de rompre le silence sur toutes ces questions qui, lorsqu'elles ne sont pas posées, risquent de banaliser des situations qui remettent gravement la loi de 1905 en question. Alors l'année 2023 a connu une année particulièrement chargée en violation de la laïcité dans notre département. J'ai choisi notre département parce qu'au niveau... au niveau du pays tout entier, ça aurait été vraiment trop long. Donc, violations qui se sont ajoutées à une liste déjà très longue de participation d'élus aux diverses cérémonies religieuses que l'on retrouve régulièrement. Cérémonies religieuses, la catholique très particulièrement. Participation des élus aux bénédictions. Les financements au nom de l'intérêt public local de chemins de pèlerinage et leur inauguration en grande pompe. L'utilisation des fonds publics au nom de la préservation du patrimoine pour réparer des églises non classées totalement délabrées tandis que des immeubles s'effondrent. Le soutien apporté en utilisant tous les stratagèmes possibles aux écoles, collèges et lycées privés confessionnels, soutien financier j'entends, alors que les écoles publiques manquent de tout. Il ne faut bien sûr pas oublier cette atteinte désespérante à la laïcité constituée par le cas Marseille-Espérance, cette instance multiconfessionnelle que la mairie de Marseille entretient en son sein. Nous aurons, et je pense que nous aurons besoin de faire une plage prochainement sur cette question, donc je ne vais pas rentrer en détail sur la question de Marseille-Espérance. Pour autant, comme chaque année, en janvier 2023, cette alliance de la mairie et des représentants des cultes a édité un calendrier multiconfessionnel. Bon, un calendrier en soi, ce n'est pas quelque chose a priori d'important. Mais si ce calendrier est préfacé par le maire de Marseille, est-ce qualité ? S'il est imprimé par l'imprimerie municipale et s'y porte le logo de la mairie, comme c'était donc le cas en 2023, alors ne faut-il pas en déduire que la mairie édite un calendrier multiconfessionnel sur fond public et qu'il s'agit là d'un problème à résoudre pour les défenseurs de la laïcité. Autre problème découvert en 2023 et qui ne peut pas laisser les défenseurs de la loi 1905 indifférents. Il s'agit de la signature par le maire de Marseille avec les évêques de la Méditerranée de la Charte de Florence, qui est un document d'engagement et un appel à construire les politiques publiques avec le concours des religions. Tout le monde le comprend, un tel engagement est particulièrement inquiétant pour l'avenir, mais il donne tout son sens à la volonté de la mairie de maintenir Marseille-Espérance. C'est cet engagement qui est à l'origine d'un partenariat entre la ville de Marseille, l'État et la région, et aussi le département, avec l'Église catholique, pour inciter le pape à venir, puis organiser et financer sa venue, dans l'objectif de mettre en œuvre cette politique de déconstruction de la laïcité. Marseille a été une fois de plus une ville laboratoire, et cette fois contre la loi de séparation des cultes et de l'État. Concrètement, pendant plusieurs mois, la ville de Marseille a été au service de l'Église catholique par la voix du cardinal Aveline, répondant à ses demandes. En partant de la lettre d'invitation écrite par le maire à la demande du Vatican, en passant par les réponses des demandes énoncées par le Vatican pour la réalisation de la messe au stade Vélodrome, jusqu'à la construction des deux trônes de la mairie selon les plans délivrés par les services du Vatican. Contrairement, l'État s'est mis au service de l'Église en repoussant, pour ne pas froisser le pape, l'ouverture de l'examen de la loi sur la fin de vie. Et pour finir, par la présence du président de la République à la messe du pape, a acté la reconnaissance de l'Église par l'État. Concrètement encore, ce sont des centaines de milliers d'euros d'argent public et des milliers d'heures de services publics qui ont été ainsi détournés de leur vocation première, qui est normalement la satisfaction des besoins des citoyens et qui s'est fait au profit d'un culte. D'autres événements marquants ont eu lieu qui démontrent cette volonté d'en finir avec la laïcité. Comment oublier l'attitude prosélyte des sept maires du pays de Louvain qui se sont rendus escalités au Vatican pour apporter leur soutien au cardinal Avelines, nouer des partenariats avec l'Église pour ouvrir des patronages catholiques et des associations d'aide aux devoirs pour les enfants et rétablir le culte catholique au centre de leur village. Pour finir, les actions contre la laïcité de l'État ont pris place en décembre dans les halls du Conseil régional, dans les halls de nombreuses mairies du département et du Conseil départemental. Quelquefois, il s'agit sous prétexte de tradition, dont on ne dit pas le nom, et nouveauté à présent, en évoquant les racines judéo-chrétiennes de la Provence. Alors, au vu de ces offensives contre la laïcité, contre la loi de 1905, quelles perspectives pour défendre et reconstruire cette laïcité ? Il faut faire un premier constat. Il y a dans notre pays, dans notre département, des citoyens ou des associations qui s'élèvent contre cette situation et cherchent à résister, à défendre la laïcité. Nous avons entendu les protestations contre les soutiens apportés par le gouvernement à la venue du pape et la présence du président de la République à la messe au stade Vélodrome. Nous avons aussi entendu les protestations émises suite au fait que le président de la République avait fait repousser l'examen de la loi sur la fin de vie. La création de l'association dans nos départements des contribuables de la vallée de Louvain et de l'Étoile pour défendre la laïcité contre les initiatives prosélytes des maires du secteur est un autre exemple de ces tentatives de résistance. De même que le succès remporté par la réunion publique organisée le 16 septembre en défense de la laïcité à l'occasion de la venue du pape par la libre-pensée, elle aussi étant une autre forme de résistance. Un autre exemple de cette volonté de défendre la laïcité, plus nationale celui-là, est le dépôt d'une proposition de loi à l'initiative de Bastien Lachaud, de la France Insoumise, visant à l'application du principe de laïcité pour rétablir la loi telle qu'elle était, avant d'être abîmée par les nombreuses attaques qu'elle a subies. Vous pouvez trouver ce texte de loi sur le site de l'Assemblée nationale et sur le site de la Libre-Pensée. Ce ne sont donc pas les défenseurs de la laïcité qui manquent. Ce qui manque, au vu de la tâche à accomplir, c'est un cadre commun à ces défenseurs, leur permettant, qu'ils soient des personnalités ou qu'ils soient des organisations, leur permettant de se rencontrer et d'élaborer des actions communes. La libre pensée a lancé une idée pour un cadre commun, non contraignant, permettant de préserver l'indépendance de chacune des organisations regroupées autour de plusieurs axes qu'elles définiront elles-mêmes. Cette proposition aurait un cadre confédéral et pour titre proposé, Confédération laïque pour la liberté de conscience. La libre pensée a fait quelques propositions d'axes pouvant servir de travail à cette confédération. Défense des lois de 1901 et de 1905, toutes les lois, rien que les lois. Abrogation de la loi séparatisme, corollaire de la liberté de conscience et de la liberté d'association. Abrogation de la loi Debré. Défense de la liberté de choix des funérailles civiles et de leur promotion. Et pour l'obtention de salles municipales pour les hommages laïcs aux défunts. Elle a d'ores et déjà appelé les organisations laïques à y répondre et plusieurs associations ont répondu favorablement à cette demande. Voilà, j'en terminerai ici sur cette note positive qui, j'espère, nous permettra de défendre efficacement la loi de 1905. Je vous remercie.
Oui, je te remercie, Claudette. Henri, veux-tu rajouter quelques mots à propos de cette question qui vient d'être traitée, s'il te plaît?
Oui, merci Michel, tout à fait. Je pense que pour rajouter encore à l'excellent bilan qui, sur l'année à la fois anti-laïque et l'année du combat laïque qui a été fait par Claudette, je pense qu'on peut rajouter un petit mot encore qui permet de faire le lien entre les deux sujets qu'on a traités, à savoir tout à l'heure la loi immigration. C'est sur l'occasion de la venue du pape, le pape François, comme ils nous disent, a beaucoup multiplié de discours, de déclarations, de gestes symboliques en faveur des immigrés. Les migrants en général et tout ça. Côté court, ça s'est passé comme ça. Côté court de la pièce de théâtre, on a eu droit à des discours sur la défense des migrants. Et puis côté jardin, la réalité, c'est que la loi contre les immigrés, on appelle la loi immigration de Darmanin, mais en fait c'est une loi contre les immigrés pour durcir les conditions d'entrée sur le territoire et d'accueil et limiter les droits qu'ils pouvaient avoir. Voilà. Et donc cette loi a été votée par les figures les plus papistes du département et de la région des Bouches-du-Rhône, puisque c'est la grande majorité des députés macronistes. Alors parmi les macronistes, il faut maintenant compter M. Muselier, qui est président du conseil de région, qui a fait voter une subvention par le conseil de région, des aides à l'occasion de la venue du pape. Il faut compter parmi ceux qui ont voté cette loi immigration, les députés, les sénateurs LR, menés par l'inénarrable Ciotti. Et dans les Bouches-du-Rhône, c'est Madame Vassal, qui est papiste au point qu'elle a fait voter des aides financières à l'occasion de la venue du pape à Paris. Et donc nous avons dit à ce moment-là... Eh bien, oui, le pape a fait ces discours-là. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Encore, si je me souviens, on a écrit ça, encore faut-il croire au discours du pape, du cardinal et du bedeau. Voilà les quelques mots que je voulais rajouter.
Très bien. Maintenant, je pense qu'il est temps de nous passer une plage musicale, s'il te plaît, Michel.
Oui. Alors la chanson que l'on va passer maintenant, elle sera en rapport direct avec ce que vient de dire notre ami Henri, puisque cette chanson, c'est Lily, qui est une chanson de Pierre Perret, publiée en 1977. Alors en 1977, Pierre Perret, dans cette chanson, aborde les termes du racisme et de l'intégration des étrangers. Ça peut nous parler à cette époque. Il met ainsi en exergue la condition des émigrés qui seraient victimes de violences et de discriminations. Alors, cette histoire est une histoire vraie, puisque Lily raconte en effet l'histoire d'une femme venue des Somalies, aujourd'hui Djibouti, avec d'autres immigrés, qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Perdant ses illusions, elle y affronte courageusement le racisme, puis émigre aux États-Unis où elle est confrontée aux mêmes difficultés et trouve un certain réconfort auprès d'Angela Davis. Alors, Pierre Perret a l'idée de ses chansons après avoir assisté à une conférence de cette dernière à New York. Lorsqu'il commence l'écriture de la chanson, la France favorise encore l'immigration économique. On peut voir ce qu'il en est maintenant.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle n'aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Merci. Michel, au début de l'émission, j'ai annoncé le banquet de la tête de veau qui aura lieu donc à Marseille le dimanche 21 janvier. Alors, ces banquets devenus traditionnels, de quoi s'agit-il ?
Oui, bon, ben je vais vous parler des banquets. Alors bien sûr, les banquets, ce n'est pas une nouveauté. Pour ceux qui sont férus d'histoire, on connaît très bien les banquets historiques de Astérix et Obélisk. Hein. Bon, mais ceci dit, maintenant, les banquets ont dû quand même, certains, pour beaucoup de banquets, ils ont eu quand même une certaine histoire et je dirais qu'ils ont changé quand même pas mal de choses au niveau historique. Alors d'abord, il faut savoir que traditionnellement, hein, d'abord, comme une perspective d'avenir, les libres penseurs organisent des banquets tête de veau pour célébrer non pas la mort d'un homme, lui capé, mais l'avènement d'une première république. Ça, il faut déjà le spécifier. Ensuite, au XIXe siècle, les banquets, le repas en commun, fut un mode particulier, spécifique d'expression politique. Le banquet politique naît au moment de la Révolution française. En 1789, dans toutes les villes de France, le banquet en plein air, dans les rues, est une forme nouvelle de sociabilité pour affirmer l'enthousiasme patriotique et l'unité de la nation. Au cours de ces repas civiques, on célèbre les nouvelles libertés. Mais cette célébration dans l'unité des acquis révolutionnaires dure peu. Le banquet public, qui avait pour fonction civique le rassemblement populaire, se fragmente entre bourgeois et sans-culottes, et à l'été 1794, les banquets dits fraternels disparaissent. Mais avec la monarchie de Juillet, le développement industriel, puis la crise économique associée à l'activité à partir des années 1840 des premières organisations ouvrières, comme la Fondation des sociétés secrètes communistes, vont user cette monarchie. Une large partie de la bourgeoisie, exclue de la domination de classe comme les cercles démocratiques, à la fois prolétariens et petits bourgeois, vont engager une campagne contre le régime. Il faut savoir que ces cercles, ce qu'on a appelé ces cercles, ou ces clubs, hein, ont été à l'origine de pas mal de choses et de pas mal de banquets. Alors ce fut le cas, par exemple, du premier banquet communiste en France à Belleville en 1840. Alors sous le règne de Louis-Philippe, le banquet politique va renaître comme un moyen de contourner en définitive l'interdiction des réunions prises par le gouvernement réactionnaire du ministre Guizot. En 1847, entre 1847 et 1848, enfin entre 1847 et 1848, 70 banquets vont se tenir dans des villes de France. Le banquet se prolonge jusque dans la soirée. Il peut rassembler une centaine de convives, parfois beaucoup plus. Mais pratiquement jamais de femmes. Chacun paye son écho et le prix est suffisamment élevé pour exclure les classes les plus populaires jugées trop révolutionnaires. La plupart des toasts, des allocutions dans ces banquets demandent l'élargissement de la base électorale, car sous la menace de juillet, seuls votent ceux qui payent le cens, impôt qui écarte le plus grand nombre. Peu à peu, les républicains aussi vont se faire attendre. Et à Lille, par exemple, le député Ledru-Rouleau, acclamé, réclame la République et le suffrage universel masculin. Cette fonction submersive du banquet se répand, prend de l'ampleur et en février 1848, le préfet de police interdit un banquet. À la suite de cette interdiction, une manifestation de protestation va en quelques jours se transformer en insurrection. Louis-Philippe abdique et la République est proclamée. La campagne des banquets a fait chuter la monarchie. Alors, la parenthèse libérale de 1848 va vite se refermer. Hein. Après l'écrasement sanglant du prolétariat parisien par la garde nationale et les troupes du général Cavagnac du 23 et le 29 juin et le 26 juin 1848, l'opinion conservatrice, c'est-à-dire une bonne partie des républicains de la veille et la totalité de ceux du lendemain, a pu considérer que l'hydre de l'anarchie avait définitivement été vaincu, au moins à Paris. Quant à l'ordre, il est assuré dans l'immédiat par l'état de siège. Et au-delà, il le sera dans la rue par l'application de la loi de juin 1848 sur les attroupements, puis le décret sur les clubs du 28 juillet 1848. Alors cette loi, il faut le savoir, a continué à s'appliquer, est même à l'origine de la loi qui a concerné les fusillés d'exemple pour la guerre de 14. Hein, il faut le savoir, ça. Alors sans abolir formellement le droit de réunion, le gouvernement, avec l'aide du parti de l'ordre, tente alors de contrôler les clubs en leur opposant des règles et en multipliant les tracasseries, défense de s'affilier et de correspondre entre eux, d'admettre les femmes ou les mineurs. Nulle association de plus de 20 personnes ne peut se former qu'après l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plaît à l'autorité publique de lui imposer. Sauf en de rares domaines, limitativement définis par des lois spéciales, ils doivent demander l'autorisation au préfet pour se constituer, fournir leur statut, la liste des membres, promettre de ne pas s'occuper de politique et de ne pas livrer à des jeux de hasard. Alors, sur les perturbations qu'il y a eu donc, par la suite, il faut savoir que ça s'est passé dans beaucoup de villes, hein, ne serait-ce qu'en Provence. Ça a été beaucoup... on a pu le raconter dans pas mal de villes, principalement, par exemple, à Vitrolles, par exemple. On a un rapport de police, hein, c'est juste pour vous dire la violence de ces banquets, tout au moins la sortie de ces banquets. En février 1850, le commandant de gendarmerie écrit au procureur de la République et lui dit « J'ai eu l'honneur de vous informer que le 8 au soir, à l'occasion d'un dîner, hein, une farandelle a eu lieu dans la commune de Vitrolles et des propos séditieux ont été projetés tels que Vive Barbès, Raspail, Ledru-Rollin, abat les carlistes à la lanterne, vive la guillotine. » Et une file, et vous pouvez voir qu'ils n'étaient pas dans la tendresse, quoi. Et une file de provocation à des personnes du pays connues par la modération de leurs principes. On peut voir que c'est ce qui s'est passé un peu partout lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle la révolution de 1848, qui a continué après, jusqu'à 1851. Alors, après la période de l'Empire napoléonien, après la guerre de 1870, de grands banquets sont de nouveau mis en place pour signifier et conforter la jeune République, fragile et en but de l'opposition monarchiste. Le banquet devient institutionnel et vecteur d'unification symbolique. Par exemple, le banquet des maires du chef-lieu de comté ou banquet commémoratif du centenaire de la Révolution. Mais l'apothéose des banquets républicains a lieu en 1900. Lors de l'exposition universelle, à l'initiative du président Émile Loubet et du président du conseil Waldeck-Rousseau, tous les maires de France sont conviés. 22 965 répondent à l'invitation. La date du 22 septembre, anniversaire de la proclamation de la Première République, est choisie. L'organisation, pour vous donner une idée quand même, il y a une sacrée logistique puisqu'il y a eu, on en a dressé 7 km de table. Hein. Alors il est prévu 39 000 bouteilles de vin. Donc je peux vous dire que c'est pas du tout ce que lors de notre banquet que l'on va faire nous-mêmes le 21 janvier, hein, c'est pas du tout, on n'aura pas 21 000 bouteilles de vin. Alors maintenant, ce banquet qui a été en 1900, il souhaitait réunifier la France déchirée par l'affaire Dreyfus. Hein, donc il avait un sens également politique. Alors maintenant, nous, quand on vous parle de banquet, on vous dit c'est le banquet tête de veau. Alors pourquoi l'appellation tête de veau ? Alors d'abord, la tradition, je dirais, ce banquet, c'était le banquet de la tête de cochon. Pourquoi ? Parce que Louis XVI était souvent représenté comme un cochon, tout au moins parodié comme étant un cochon. Alors, c'est la tradition qui remonte en 1794, un an après la mort de Louis Capet, quand le citoyen Romeau publia un pamphlet « La tête et l'oreille de cochon », où il suggère de remplacer les fêtes religieuses en commémorant les épisodes les plus marquants de la Révolution. Il propose ainsi d'organiser chaque 21 janvier des banquets servant de la tête de cochon pour commémorer la fin de l'Ancien Régime. Il propose également, vous voyez comme quoi les fêtes religieuses, des fois, c'est curieux, chaque 14 juillet pour la fête de la Fédération, de déguster un gâteau en forme de Bastille ou encore un gras de poulet d'Inde le 10 août pour célébrer la chute de la monarchie. Vous voyez qu'on avait des fêtes qui étaient laïques. Cela. Voilà. Mais dès 1848, en définitive, la tête de veau, elle prévaudra sous l'influence anglaise du banquet célébrant les 30 janvier la décollation du roi Charles Ier en 1649. Parce que depuis cette époque, c'était une tradition de chez eux de faire un banquet tête de veau. Alors bien sûr, historiquement, quand on regarde, quand on cherche, il n'y a pas vraiment de... C'est une des solutions qui a été donnée, c'est la plus probable, mais c'est pas certifié. Hein, on ne vous certifie pas ce truc-là. Mais en tout cas, c'est exactement le même genre de banquet. Voilà ce que l'on peut dire sur les banquets.
Merci Michel. Je vais te demander de nous passer une nouvelle plage musicale. Que nous propose-t-on ?
Alors, moi, je propose, c'est pas compliqué, toujours dans le fil du thème principal de l'émission, qui était en définitive l'immigration, je vous propose de passer le Métèque. Hein. Le Métèque est une chanson française écrite, composée et créée par Georges Moustaki en 1969. Alors, je précise ça, parce que peut-être que beaucoup de jeunes qui sont en antenne ne connaissent peut-être pas cette chanson.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, avec mes yeux tout délavés, qui me donne l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Très belle chanson. Maintenant, donc, je vais rappeler à nouveau que le dimanche 21 janvier, à Marseille, il y aura le banquet républicain, dont Michel nous a brossé un historique. Je voudrais aussi vous indiquer que parmi les publications de la Libre Pensée, il est paru « La Libre Pensée dans le monde arabo-musulman », qui est un bel ouvrage qui a pour prix 12 euros. Mais cet ouvrage vous donnera des éclairages sur les intrications historiques et sociales de cette religion et comment une pensée libre et rationnelle a pu y cheminer avec avancée et, plutôt aujourd'hui, des régressions. Il y a là des bases indispensables à qui veut comprendre les déclinaisons qui traversent beaucoup de populations. Par exemple, on y trouve 12 personnages importants, sont évoqués Avicenne, Averroès, Ibn al-Rawandi, qui fut un contestataire de l'islam, Tahar Haddad, libre penseur tunisien. Babu Goginenni nous dresse un tableau pour l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est qui nous parle aussi de la condition sociale des musulmans en Inde, aussi bien que de celui des non-croyants en Indonésie. Babu nous parle aussi du rôle néfaste d'un dénommé Bukay, médecin d'ailleurs, qui était médecin personnel de Faisal d'Arabie Saoudite. Ceci explique peut-être cela. Mais c'était aussi, si j'ai bien compris, un contestataire de la science officielle. Donc, voilà, c'était bien mis au service de Faisal d'Arabie. Alors, n'oublions pas les articles sur le mutazilisme, les karmates, la persistance du zoroastrisme. Sont abordés, bien sûr, l'Algérie coloniale et le lien de la libre pensée avec le combat pour l'indépendance. Il y a aussi la Turquie, où vous verrez infuser le siècle des Lumières dans l'Empire ottoman et poser les problèmes de la Turquie moderne. Il y a d'ailleurs une vue critique sur la laïcité, ce qu'on appelle la laïcité dans ce pays. L'ouvrage se termine sur les colloques de Beyrouth, de Chypre et de Tunis, organisé à l'initiative de l'Association internationale de la libre pensée. Voilà. Donc, il y a aussi, bien entendu, d'autres publications dont je vous ai parlé. La raison, pour les Bouches-du-Rhône, l'impertinent. Il y a, dans la série Arguments, la parution récente du dossier numéro 24, dossier Allemagne, qui traite les problèmes de la laïcité dans ce pays et pose la question, l'Allemagne est-elle vraiment une république ? Nous pouvons dire merci à Claudette, Henri et Michel. Nous renouvelons nos meilleurs vœux à nos auditrices et nos auditeurs et affirmons que nous continuerons le combat pour la paix, pour les libertés, en particulier les libertés d'expression, pour la laïcité. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de la Fédération des Bouches-du-Rhône, de la Libre Pensée, www.lp-13.org. Merci aussi à Radio Galère, à Daniel et Lucien d'Article 25, auxquels nous présentons aussi nos meilleurs voeux. Au revoir et à bientôt.
Des massages et des rimes de la cam dans la cave. La petite boue.